Chapitre 33. Où messieurs Mifroy et Longuet font pour la première fois connaissance avec gentille dame Jeanne de Montfort et damoiselle de Coucy, dans quel équipage et ce qui s'ensuivit au fond des catacombes. Nous nous étions endormis sur un sol mou, quasi humide, sur une terre presque végétale. J'avais tiré de cette remarque le meilleur augure pour un prochain avenir. En somme, notre voyage, jusqu'à cette heure, n'avait présenté de remarquable que quelques bribes de conversation entre Théophraste et votre serviteur. Les galeries souterraines, les feux de notre lampe électrique illuminaient, tantôt vastes, tantôt étroites, tantôt arrondies comme des nefs de cathédrale, tantôt carrées et angulaires et si mesquines qu'il fallait nous traîner à genoux, ne nous présentait point un spectacle d'une grande variété. Quand nous avions dit « Tiens, de la pierre, tiens, de l'argile, tiens, du sable », nous avions tout dit parce que nous avions tout vu. Ceci ne pouvait durer. Depuis 48 heures que nous marchions sans avoir rencontré d'eau, nous commencions, suivant moi, à avoir les plus grandes chances de tomber sur quelques filets d'eau courante. Mon espoir, comme vous voyez, était bien modeste. De combien fut-il dépassé? Je vous laisse en juger quand vous aurez appris de quelle merveille, 10 minutes plus tard, nos yeux furent éblouis. En route, avais-je fait, et Théophraste, debout, ayant serré de 2 crans sa ceinture, fut prêt à reprendre sa route sans m'entretenir cette fois de sa faim ni de sa soif. Le brave homme devait penser sans doute que mon estomac n'était pas plus à la noce que le sien. Nous nous remîmes à marcher, notre veston sur le bras, tant il faisait chaud. Jusqu'à la veille, à 4 heures de l'après-midi, j'avais estimé que notre température était d'environ 10 degrés centigrades, puis cette température n'avait fait qu'augmenter au fur et à mesure que nous avancions dans la basse galerie que nous ne devions plus quitter que pour aboutir à ce que je vais vous dire tout à l'heure. Maintenant, je pensais qu'il faisait plus de 20 degrés centigrades et la sueur coulait de nos fronts en abondance. Nous nous promenions dans un brûlant été. À quoi devions-nous attribuer cette hausse subite de la température? Étions-nous plus bas dans la terre? Ou avions-nous simplement plus de terre au-dessus de nous? Certaines galeries, je le savais, s'enfonçaient à plus de 79 mètres au-dessous de la surface du sol de Paris. Qui eût pu dire à quelle distance du sol nous nous trouvions alors? Notre lampe électrique répandant son éclat autour de nous, nous avancions toujours, discutant déjà sur le feu central, quand les parois de la galerie, s'écartant tout à coup, nous nous trouvâmes dans une excavation si vaste, dans un si immense cirque, que notre lumière, si brillante fut-elle, ne pouvait nous en montrer les extrémités. Enfin, quelle ne fut pas notre joie et aussi notre stupéfaction, quand, ayant regardé à nos pieds, nous nous aperçûmes que nous étions sur la berge, fleurie d'un épais tapis de mousse, d'un lac aux eaux d'une transparence cristalline, dans laquelle nous voyions s'ébattre des poissons merveilleux aux écailles incolores, sans yeux, nullement sauvages, et que nous eûmes pu saisir, nous semblait-il, en nous penchant un peu avec la main. Enfin, nageant sur les eaux enchantées de ce lac, une troupe de canards, une troupe de 15 canards. « 15 canards !» s'écriait tout bas Théophraste, car il avait peur de les faire fuir. « Il y en a 15, je les ai comptés !» Et dans sa barbe, il ajouta en pleurant de joie, « Coin, coin, coin !» Puis, perdant toute espèce de respect, Théophraste me frappa sur le ventre et me dit, « Eh ben, mon vieux, qu'est-ce que tu dis de ça? C'est autre chose que tes acélites, acellus, acionus, aquaticus, masticus, mastica, masticum, puteanus.
Coin, coin, coin !»
J'avoue que j'étais un peu humilié de ne pas avoir su prévoir, mais je reconquis bientôt tous mes avantages dans l'esprit de Théophraste, lorsque, l'ayant fait asseoir à mes côtés sur la berge, pour qu'il n'effrayât point les canards, je lui eus expliqué, avec preuves à l'appui, que ce que nous voyions là était tout à fait naturel. Il me remercia avec effusion, me disant qu'il ne se serait jamais consolé qu'un si beau lac, que de si beaux canards en un pareil moment n'eussent pas été naturels. Je ne perdis point notre temps à lui faire un cours sur le rôle que chaque genre de terrain pouvait jouer dans un pareil phénomène. Je n'eus garde de lui obscurcir l'entendement de la théorie des couches sablonneuses reposant sur des couches imperméables. Tout de même, il fallut bien qu'il comprît que, dans les couches perméables, les eaux pouvaient former des nappes liquides continues, se mouvant avec une certaine vitesse. Ces eaux courantes, entraînant peu à peu les roches et les sables environnants, des rivières souterraines prennent ainsi la place du massif originaire et opèrent de grands vides là où primitivement tout se touchait. Ce qui le frappa par-dessus tout, c'est le récit que je lui fis de mon voyage en Carniole. Il y a là un lac, le lac de Zirknitz, qui a environ 2 lieues de long sur 1 lieue de large. Vers le milieu de l'été, si la saison est sèche, son niveau baisse rapidement et en peu de semaines, il est complètement à sec. Alors on aperçoit distinctement les ouvertures par lesquelles les eaux se sont retirées sous le sol, ici verticalement, ailleurs dans une direction latérale, sous les cavernes dont sont criblées les montagnes environnantes. Quand les eaux réapparaissent venant du lac souterrain, qui est évidemment adjoint naturellement au lac visible, avec ces eaux apparaissent des poissons plus ou moins gros, sans yeux. Enfin, par une sorte de caverne, sortent quelques canards du lac souterrain. Ces canards, au moment où le flux liquide les fait ainsi jaillir à la surface de la terre, nagent bien. Ils sont complètement aveugles et presque entièrement nus, c'est-à-dire sans plumes. La faculté de voir leur revient en peu de temps, mais ce n'est guère qu'au bout de 2 ou 3 semaines que leurs plumes toutes noires ont assez poussé pour qu'ils puissent s'envoler. Wolfesor visita le lac de Zirknitz en 1687, ajoutai-je, pour qu'aucun doute ne restât dans l'esprit de M. Longuet, sur le phénomène naturel de ces canards, et il y prit lui-même un grand nombre de ces canards. Il pêcha des anguilles sans yeux et des tanches et des brochets sans yeux qui avaient un poids énorme. Certains de ces brochets pesaient 40 livres. Il y a donc à Zirknitz non seulement une immense nappe souterraine, mais un lac véritable avec les poissons et les canards qui peuplent les lacs de la surface. C'était une notice d'Arago sur les puits artésiens. M. Théophraste Longuet, qui ne lâchait point des yeux les canards, ne cessait de répéter « Ben vous avez raison, monsieur le commissaire, ce sont des canards naturels !» J'ajoutais qu'en France, il y avait aussi des lacs de Zirknitz. Près de Sablé, en Anjou, il y a un gouffre de 6 à 8 mètres de diamètre dont on a pu déterminer la profondeur. Ce gouffre, connu dans le pays sous le nom de « Fontaine sans fond », déborde quelquefois, et alors il en sort une quantité prodigieuse de poissons et surtout de brochets truités d'une espèce particulière. « Oh, ils n'ont point Dieu !» interrompit Théophraste. « Je le sais, monsieur le commissaire. Mais puisque ces poissons et ces canards n'ont point Dieu, ils doivent être faciles à prendre pour ceux qui en ont envie. » Théophraste ne parlait de rien de moins que de se jeter à l'eau pour aller pêcher un canard, quand ma main s'appesantit sur son épaule. Il se tut, et il nous eût été impossible dès lors de formuler un son, tant ce que nous vîmes nous cloua la langue. Notre étoile électrique venait de découvrir, assez loin devant nous, mais assez près pour que nous ne perdions aucun détail de cette inoubliable scène, un corps de femme. Ce corps, debout sur la berge de mousse, était absolument nu. Il nous tournait le dos. Je jure que de ma vie, moi, un artiste, je n'ai jamais vu pareil corps de femme. Cette première vision, du reste, ne dura qu'un instant, car le corps nu de cette femme se jeta à l'eau et se mit à nager avec la grâce et l'aisance d'une jeune otarie. Oh, cette apparition nous avait fait oublier les canards, ce qui prouve une fois de plus que l'art immortel peut faire oublier bien des choses. Théophraste ni moi ne songions plus à la faim qui nous serrait les entrailles. Nous n'avions plus qu'une crainte, c'est que l'apparition ne s'évanouit, et qu'un espoir, c'est que notre présence, évidemment inattendue sur la berge fleurie de mousse, continuât à être insoupçonnée. Après quelques brasses, le corps de la belle inconnue, secouant les perles fines du lac aux eaux donnantes, se dressa encore dans sa glorieuse nudité, et cette fois à quelques pas de nous, mais toujours de dos. Mais de quoi était faite la blancheur, enfin je veux dire la pâleur de cette chair? Quelle carrière de Carrare ou du Pentélique donna jamais au monde agenouillé un marbre plus précieux et plus pur? Par quel miracle des divins enfers où le sort venait de nous précipiter pouvions-nous contempler ces lignes de définitive beauté? C'était les hanches de la Vénus de Médicis, la taille de la Vénus de Cnide, le cou de la Vénus de Praxitèle et les bras de la Vénus de Milo. C'est-à-dire que l'on pouvait souhaiter à la Vénus de Milo elle-même de retrouver des bras pareils. C'était le cou de la Diane, la biche, les épaules d'Ariane, le port de tête de Melpomène, les fossettes de la Vénus d'Arles, le mouvement de jambes de la Pallas de Velletri, la cheville de la Diane de Gaby, le pied de la Minerve Pacifique et la cuisse de la Vénus Génitrix. Enfin, si dans les jeux de son bain, cet exquis enfant montrait les grâces d'une jeune otarie, sur la berge, l'allure de sa démarche et l'unité incomparable de ses mouvements rappelaient ces grandes panathénées qui viennent d'ouvrir le péplum à Minerve sur la frise de notre grand Phidias. Je souhaitais ardemment que ce chef-d'œuvre se retournât pour m'écrier enfin dans une allégresse qui commençait à me brûler les reins. « Comme elle est belle et grande et noble, cette Vénus! Quel vague et divin sourire sur ses lèvres demi-entrouvertes! Quel regard surhumain, enfin, etc., etc. Oh, Théophile, si tu avais été là, Théophile Gautier !» Et comme si un dieu malin veillait à ce que fût accompli sur le champ mon vœu le plus brûlant, la Vénus se détourna. Et nous ne pûmes, Théophraste et moi, retenir un cri d'horreur, ce que fit la Vénus replongea avec un grand clapotis. Notre Vénus n'avait pas Dieu. Vous entendez bien, pas les moindres traces Dieu. Il n'y avait rien à la place des yeux, rien, rien, rien. Ses oreilles, que nous avait cachées l'opulence de sa chevelure, étaient énormes et relevées en cornets, comme on le voit à certains animaux qui habitent la terre. Mais ce qui nous effraya le plus, ce fut le nez. Était-ce un nez, un museau, je dirais le mot, un groin? Hélas, hélas, cela ressemblait davantage à un groin qu'à un nez, un joli petit groin rose. Nous n'étions pas encore revenus de notre surprise qu'une autre jeune personne, habillée celle-là d'une tunique légère mais opaque, survint sur la berge, tenant en ses bras un peignoir et tournant vers nous un identique grain rose. La Vénus va vers sa compagne à la rive et sa compagne dit: il se taise, tout quoi, si nul ne sonne mot. La Vénus paraissait courroucée. Elle dit: ah, Sainte Marie, n'auront nul pardon. Vé, oil, c'est fol outrage, oil. Finalement, bien VS, entrée de tour. Je vous cuidais encore en ma compagnie. Oh, Sainte Marie, de nos gens, savez-vous nulle nouvelle? Allez voir que c'est ni quelle chose il faut, je le veuille. Depuis que le sort m'avait précipité en le trou des catacombes, je m'étais efforcé de ne m'étonner de rien et de me préparer à tout. Qu'un lac se fût présenté à mes regards, quand j'espérais un mince filet d'eau, que des canards se fussent ébattus à portée de ma main, quand je n'osais entrevoir, pour le contentement de ma faim, que le repas un peu maigre des chétives acellides, qu'une femme plus belle de dos que toutes les femmes imaginées par le rêve des sculpteurs se fût dressée pour mon éblouissement sur la rive moussue d'une pièce d'eau des catacombes à l'heure de son bain, que cette femme, s'étant retournée au lieu de m'exhiber le visage humain, me montra un groin rose des pauvres dieux, mon Dieu! Tout cela pouvait s'expliquer. Mais que cette femme, avec son groin rose, parla le plus pur français, la plus pure langue d'oeil du commencement du XIVe siècle. Oh, cela, c'était tout à fait extraordinairement étourdissant. Comme je pensais que Théophraste ne s'étonnait pas assez, j'allais entrer en quelques dissertations touchant la langue d'oeil. Lorsque nous fûmes tout à coup entourés par une trentaine de personnages qui sortaient de je ne sais où et qui agitaient autour de nous des mains où je fus assez surpris de compter 10 doigts, avec les doigts de pied, cela faisait 40 doigts par personne, ils avaient tous des groins roses sans yeux. C'étaient des hommes, à n'en pas douter, des hommes du plus pur XIVe siècle, pour peu qu'on prêtât l'oreille à leur conversation tenue sur un diapason des plus bas, chose que je m'expliquais par le développement excessif de leurs organes auditifs. Beaucoup d'entre eux, tout en gesticulant d'une main, se pinçaient leur groin rose de l'autre main, c'est-à-dire de leurs 10 doigts de la main gauche. Ils se pinçaient leur groin au fur et à mesure qu'ils entraient dans le rayon de notre lumière. Et j'eus bientôt cette certitude que notre lumière leur procurait la sensation d'une odeur désagréable. Ils parlaient tous à la fois, en citant à chaque instant ces noms, « Dame Jeanne de Montfort, damoiselle de Coucy ». Et nous vîmes bien qu'il s'agissait là de ces dames que nous avions dérangées à l'heure du bain. Ils ne nous effrayaient pas, mais ils nous ennuyaient avec leurs 20 doigts chacun, qu'ils ne cessaient de promener très légèrement du reste et fort poliment, avec 1000 belles excuses sur notre visage. Ils exprimaient, sans circonlocution, l'étonnement où les plongeait l'inesthétisme de nos faces et nous plaignaient hautement. Notre petit nez, notre pauvre petit nez de rien du tout, leur faisait hausser les épaules avec joie. Ils tâtaient aussi nos oreilles, enfin, ils nous enfonçaient leurs 20 doigts dans les yeux et ne pouvaient comprendre à quoi ces petits trous pouvaient servir. Je voulus leur faire entendre, mais en vain, ils avaient perdu le sens de la signification du mot « œil ». Cependant, ils se servaient du mot « voir », mais c'était dans la signification de « sentir ». Sur ce, Dame Jeanne de Montfort et Damoiselle de Coucy, qui s'étaient revêtues, nous furent présentées. Nous demandâmes de grands pardons. Damoiselle de Coucy les accueillit avec agrément et passa son bras sous celui de Théophraste. Dame Jeanne de Montfort me prit le mien et, escortée de tous ces groins roses sans yeux qui faisaient grand bruit autour de nous, nous quittâmes les berges fleuries de mousse de l'étang et nous acheminâmes vers la cité. Il me paraît superflu de vous analyser mes sensations, de vous disséquer mes étonnements. Depuis 48 heures, nous n'avions mangé, et cependant ni Théophraste ni moi ne fîmes dans ce sens aucun appel. Nos gens nous questionnaient tout le long de la route, mais leurs demandes étaient si multiples et embrouillées que nous n'avions point le temps de leur répondre. À peine pouvions-nous nous garer des doigts qui se promenaient sur notre visage. Où allâmes-nous? Où entrâmes-nous? Notre trouble était si extrême que difficilement nous nous en rendions compte. Du reste, ces dames s'étaient emparées de nos lampes sous prétexte d'être incommodées par l'odeur, et les ténèbres les plus opaques nous entouraient. Cependant, autour de nous, nous sentions grouiller des centaines, des milliers de groins roses. Dame Jeanne de Montfort, qui ne cessait de me pincer amicalement le bras des 10 doigts de sa main droite, chargée de bagues, m'apprit que nous allions au concert. Il y avait ce jour-là, paraît-il, matinée classique. Moi, je pensais, mais pourquoi ont-ils un groin rose? Quand on a jeté les dorades dans la fontaine de la Samaritaine, les dorades ont perdu leur couleur. Ce n'est donc pas naturel qu'ils aient un groin rose. Je parvins à chiper à ma compagne une de nos lampes et rapidement j'appuyai sur le bouton électrique. Je vis alors que nous étions arrivés sur une place publique. La foule des groins autour de nous était tout à fait incalculable. Quelle attitude, quel profil, quel geste! Et cependant, les groins étaient roses et parlaient la plus pure langue d'oeil du commencement du XIVe siècle. Ce qui n'empêchait pas les uns d'avoir la démarche des ours du Tonkin, on dirait qu'ils marchent avec les épaules, ou encore des ours de Sibérie, quand ils remuent la tête comme ça, comme ça, comme ça, sans que ça finisse jamais. Cela était les vieillards. D'autres avaient le nez si long qu'on eût juré des pélicans d'Australie. D'autres, enfin, avaient quelque chose du février d'Amérique. Mais quelque chose, je ne sais plus au juste. Enfin, on nous avertit que nous étions à la porte du concert. Théophraste dit « Bon, c'est bien ennuyeux, j'ai pas de gants. » Chapitre 34 où, après quelques incidents d'une banalité courante, la nation Talpa étonne vraiment M. le commissaire Mifroy et M. Théophraste Longuet. Évidemment, nous ne pouvions nous attendre à tomber ainsi à l'un des innombrables détours des catacombes dans une cité de 20 000 âmes. Tout de même, en y réfléchissant, et il faut y réfléchir, on peut se demander pourquoi l'homme, desservi par certaines circonstances, ne serait point susceptible de passer par les mêmes aventures naturelles que l'animal. Quand Tarago nous raconte qu'il a vu sortir des cavernes du lac souterrain de Zirknitz des familles de canards aveugles, vous le croyez et vous êtes dans la nécessité de supposer, avec certitude, que ces canards aveugles sont fils ou petits-fils de canards qui y voyaient clair, lesquels canards se sont autrefois trouvés enfermés par un âpre destin dans les entrailles de la terre au sein des obscures eaux. Moi, je ne suis pas Arago, mais si le ciel vous a doué de quelque logique, vous devez raisonner pour mon phénomène comme vous avez raisonné pour le phénomène d'Arago. Vous devez imaginer avec certitude qu'une famille, dans les premières années du XIVe siècle, s'est trouvé enfermé dans les catacombes à la suite d'une catastrophe qui n'a pour nous aucune importance, qu'elle a pu y vivre, qu'elle y a vécu, en effet, et qu'elle a engendré. Pouvant y vivre, nous verrons qu'on se nourrit très bien dans les catacombes. Pourquoi n'aurait-elle pas engendré? Au bout de 3 générations, ces gens ne se souviennent même plus du dessus de la terre, d'autant plus qu'ils ont peut-être intérêt à en perdre la mémoire. Ce qui se passait alors sur la terre n'était point si ragoûtant, et nous comprenons, quant à nous, tout à fait bien que lorsqu'on a cessé de contempler, par le plus heureux des hasards, les horreurs du Moyen-Âge, on ne soit point pressé de revoir la lumière du jour. Bien entendu, on continue toujours à parler la langue, et comme aucun élément étranger ne s'y vient mêler, elle se conserve dans toute sa pureté à travers les siècles. Tout ceci est si simple que je suis étonné d'avoir mis au moins 20 lignes à vous l'expliquer. Mais je ne le regrette pas, car avant tout, je ne voudrais que quiconque m'accusât de lui faire prendre des vessies pour des lanternes. Enfin, en ce qui concerne les 40 doigts de ces gens, 20 en haut et 20 en bas, nous avons les études probantes de Milne-Edwards, comme j'ai déjà l'honneur de l'exposer, sur l'Acellus aquaticus dont les poils tactiles sont si développés. De même pour le museau, pour le nez en nez monstrueux de taupe, mais qui, comme il était rose, pouvait passer pour un groin de cochon. Nous avons encore et toujours les bâtonnets olfactifs du Nepharhynchus putéanus. Même raisonnement pour les oreilles. Tout le monde voudra comprendre qu'on ne peut perdre les yeux sans que les autres sens se développent. Et quand ce développement date de plusieurs siècles, il devient monstrueux pour nous et magnifique pour les indigènes. C'est ainsi que Damoiselle de Coucy était réputée comme la plus belle de la ville, parce qu'elle avait le plus gros nez. Ben, il ne reste plus à expliquer que le groin rose. En effet, l'obscurité décolore. Mais je suis par la suite, dès le premier baiser de Dame de Montfort, que cette couleur rose était artificielle et tenait à l'application d'un certain fard. Encore une fois, je m'excuse de toutes ces considérants, mais chacun n'a pas lu la notice sur les puits artésiens d'Arago, ni visiter le laboratoire des catacombes de Milne-Edwards. Enfin, tant pis pour les autres. Moi, j'ai la science avec moi. Que nous soyons arrivés à l'heure du concert, matinée classique, ceci, maintenant que nous avons la science avec nous, ne saurait nous arrêter un instant comme un événement excessif. Il fallait bien arriver à une heure quelconque dans la cité des Talpas. Au nominatif pluriel, tapa fait talpae, voyez rose à la rose, mais en fait les talpas disaient « nous sommes les talpas, PA ». Ce qui nous gênait tout à fait dans cette histoire de concert, c'est que nous ne pouvions appuyer sur le bouton d'une lampe électrique sans exciter les murmures des spectateurs. Il paraît que notre lampe répandait une odeur de lumière insupportable. Nous nous résolûmes momentanément aux ténèbres, et comme il y avait un grand brouhaha autour de nous, à cause de nous, je m'efforçais de démêler quelques bribes de conversation. Ces gens s'interpellaient par des noms qui sont les plus illustres de l'histoire de France, aux environs de la bataille de Crécy. Mais ils s'interpellaient avec une voix d'une douceur ineffable, et tant de brouhaha n'était que le résultat de 1000 murmures enchanteurs. Moi qui, dans un éclat de mon étoile électrique, avais vu leur groin rose, je ne pouvais me faire à cette idée que de pareils groins puissent laisser couler de si douces et mielleuses paroles. J'écoutais, cependant, que Dame de Montfort, dans le fauteuil d'orchestre à côté de moi, m'enfonçait les doigts dans les oreilles, en manière de gentillesse, et s'extasiaient sur leur petitesse. Mon Dieu, quelle belle langue que la langue du XIVe siècle! Écoutez, un beau sire derrière moi bouscule tout le monde, et je l'entends qui dit « Oh, veux-je retourner à Dame de Montfort ?» qui bien a courage d'homme et cœur de lion. Un autre sire répond au premier sire que, dans le moment, Dame de Montfort a une attitude dont il est dolent et courroucé. Elle me promenait alors ses deux index de la main droite dans l'œil gauche. Mais elle ne s'occupait de personne que de moi et répétait aux gens « Oh, Seigneur, ne vous ébahissez mi, ainsi je le veux à y réconforter. » Et elle me réconfortait en fouant ses doigts partout, avec une grande décence, certainement, mais avec plus de curiosité encore. Cette dame avait les 20 doigts les plus curieux du monde. Enfin, il y eut un grand silence. C'était sans doute le concert qui commençait. Durant quelques minutes, nous n'entendîmes plus rien, mais absolument plus rien. Ils se tenaient tous quoi, et nul ne sonnait mot. J'ai tenu à mettre en lettres italiques tout ce qui est de la langue du XIVe siècle, de telle sorte que les pédants puissent vérifier et avoir ainsi la certitude que dans cette histoire je n'ai rien inventé. note de M. le commissaire Mifroy. Mais bientôt des protestations troublèrent cette grande pause. Elles montaient autour d'un ronflement que je reconnus pour être celui de Théophraste. Je me levai et lui secouai le bras. Il me pria de présenter ses excuses. « Chaque fois, me dit-il, que je vais au théâtre, ça ne rentre pas. » Beaucoup de paroles encore autour de nous. Tant fut proposé et parlementé, m'avoua ma voisine, qu'on avait déterminé de nous faire descendre sur la scène. J'eus ainsi la raison pour laquelle on nous avait entraînés avec cette précipitation dans la salle de spectacle de la ville et à la matinée de concert. C'est qu'on voulait exhiber notre phénomène dans un entr'acte. On nous réservait pour l'entr'acte. Je fus étonné de voir avec quelle facilité Théophraste supportait cette humiliation, mais il était décidé à tout depuis que sa compagne lui avait promis qu'il y aurait du canard au sang, au dîner et plus un brochet à la mode du cuisinier Jean Phébus et grand foison de champignons de Béarn. Il fallut nous exécuter. Nous descendîmes donc sur la scène dans un véritable trou comme à l'orchestre de Bayreuth. On pouvait nous voir, ce qui n'avait pas d'importance, mais je craignais qu'ils ne pussent l'entendre, car on me demanda de chanter. J'eus le bon goût de ne point me faire prier plus de 5 minutes. Ma voix n'est point déplaisante. Ces braves gens, selon moi, n'auraient certainement rien compris aux dernières chansons roses de Montmartre. Le ciel me préserve de leur en faire un crime. Moi aussi, j'en suis resté à la vieille et bonne et saine chanson de l'opère. Je susurrai le premier couplet de cette aimable romance. Elisa, viens à moi. Je dis susurrai, pour des raisons que vous comprendrez à l'instant. Je n'entonnais point, je susurrai. Elisa, viens à moi, abandonne la ville. D'un amour partagé, viens goûter le bonheur. J'avais pourtant levé ma cavale docile dans mes bras amoureux sans tressaillir mon cœur. Et je n'avais point fini le premier couplet que toute la salle criait « Plus bas, plus bas! Chante donc plus bas !» me fit Théophraste. Je chantais plus bas. « Viens, j'ornerai ton front des perles les plus fines et des bracelets d'or te pareront les bras. Je me voudrais à toi, au penchant des collines, oui, as-tu charmant, sur la peau du lion d'or, la nuit, tu dormiras. » Je comptais, comme toujours, sur le gros effet de la peau du lion d'or, quand les voix crièrent encore « Plus bas, plus bas !»« Chante donc plus bas !» fit encore Théophraste. Alors je chantais le troisième couplet, si bas, si bas, que l'on eût dit de ma voix le murmure étouffé de quelque lointaine et cristalline source. J'habite le désert au bord d'une fontaine. Cet asile si pur où m'attend le bonheur, je quitterai ma tente et tu seras ma reine. Il me fut impossible de terminer. Mais je disais encore, je quitterai ma tente et tu seras ma reine, que les cris reprenaient plus bas, plus bas. Je regagnai alors ma place, celui de Théophraste, qui me suppliait de me calmer, car, dame, je n'étais pas content. Eh bien, j'avais tort. Ceci n'était pas un incident personnel. J'en pus juger par la suite du concert. Ce fut un concert de silence. De temps à autre, ils applaudissaient le silence. Ces gens ont un système auditif si développé qui ne comprennent la musique que dans le silence. Ils ont, m'a-t-on affirmé, des chanteurs silencieux de premier ordre. Pour être applaudi, moi, j'aurais dû me taire. Chapitre 35. Où nous commençons à entrer dans le fantastique, si l'on entend par fantastique tout ce qui ne se passe pas à la surface de la terre. Après le concert, nous fîmes un dîner à nous cogner partout. Je ne m'y appesantirai point. Les choses de la chair m'ont toujours laissé dans une vaste indifférence. Cependant, je veux avouer que je ne sus, après le dîner qui suivit ce concert, me défendre des entreprises comme mon honneur au-dessus de la terre eût dû m'y inviter, ni résister aux agaceries de la dame de Montfort. Les ténèbres, il ne faut pas l'oublier, furent pour beaucoup dans cette faillite de mes plus honnêtes instincts, je dirais de ma naturelle vertu. Quoi ce fut, ne vous dirai-je. N'en attends nul pardon, mais aussi dame de Montfort m'énervait avec ses 20 doigts de main et aussi avec ses 20 doigts de pied. J'avais combattu vaillamment, je jurais de n'en parler honque, mais madame dit qu'elle ne m'était point repentie de ce qu'elle avait mis la chose si avant, et finalement, elle s'étant endormie, je me partis de sa chambre et ouvris lui. Certainement, je serais resté 8 jours de plus sans la ville. Nous y restâmes 3 semaines et nous y serions encore, si je n'avais été sculpteur, que je n'aurais pu désormais me servir d'une autre langue que celle du commencement du 14e siècle, qui est la plus belle du monde. Mais il faut savoir se reprendre, ou alors on n'est qu'un pauvre sire, triste jouet du destin. L'événement était en somme si exceptionnel que je brûlais du désir de l'approfondir. Nous avions eu encore le temps de rien voir de la ville, tant ils avaient mis de hâte à nous entourer, nous exhiber, nous gaver et nous mettre en notre couche. Théophraste s'était conduit de telle sorte, pendant le repas, mangeant de tout avec excès, qu'on avait dû l'emporter, ce qui avait été fait selon les ordres de la damoiselle de Coucy, laquelle, je le crains bien, n'aura point fait pour l'or ses frais de galanterie. L'électricité, toujours à cause de cette insupportable odeur de lumière, nous ayant été interdite en public, je fus bien aise de me trouver à cette heure, tout seul, dans les rues, ayant fui la couche de volupté pour juger des choses posément, après les avoir éclaircies. Ce qui me frappa d'abord, ce fut que les maisons n'avaient point de porte et que toutes les boutiques étaient ouvertes aux passants. Les objets les plus précieux et aussi les plus ordinaires se trouvaient à portée du premier voleur venu, d'autant plus que je m'aperçus nul gardien dans ma promenade. Je me dis « voilà une ville où la police est tout à fait mal faite. Mon passage en ce lieu sera peut-être de quelque utilité. » Puis l'artiste, reprenant le dessus sur le commissaire, je m'attardai bientôt avec ma lampe électrique à des merveilles d'architecture. Mes yeux restaient éblouis par la profusion des colonnades, des cannelures, des chapiteaux, par le travail tout à fait incroyablement fouillé des frises, des bas-reliefs, des socles et généralement des assises des monuments. Les chapiteaux aux feuilles si extravagantes, aux volutes si contournées, détournées, retournées, étaient toujours à hauteur d'homme. La main pouvait les atteindre. Je vis bientôt qu'au-dessus de la hauteur d'homme, l'architecture devenait ce qu'elle pouvait. Elle se perdait sans intérêt dans la voûte des catacombes, mais tout ce que pouvaient toucher les doigts n'était comparable à rien. Si ce n'est cependant de loin à ce que je sais des merveilles d'Ancore et du vieux Delhi. Oui, peut-être, la pierre 1000 fois travaillée par les artistes de l'Inde et du Cambodge pendant 1000 ans pourrait faire prévoir, peut-être, oh peut-être, cette floraison souterraine et sublime de l'architecture Talpa, jusqu'à hauteur d'homme. Non, non, après tout, ni le bouddhisme, ni le brahmanisme, ni l'islamisme, ni les arias, ni les arabes, ni les mongols, ni les afghans, après tout, ni les perses, oui, certainement, ni même les perses, pas plus l'Inde avec le palais de Tojoré, les tombes légères et poétiques de Haider Ali, d'Aurangzeb, de Shahjahan, et aussi, après tout, les kiosques funèbres d'Hyderabad et de Golconde. De Golconde, oui, je dis de Golconde. Pas plus cela dans les Indes que ceci chez les Perses, c'est-à-dire ce qui reste, oh mon Dieu, combien peu, du Takesra, c'était le palais de Khosroès Nakhchivan, ou des ruines, ce qui reste des ruines de Ctésiphore Silenci, mais je sais bien toutefois que l'art des Sassanides paraît avoir tout à fait été tributaire de Byzance, mais c'est pas tout à fait sûr. Rien, vous entendez, rien de tout ceci ou de tout cela. Rien du tout, de tout en architecture du dessus de la terre n'approche à hauteur d'homme de l'architecture talpa. Et cependant, je ne rencontrerai point de monument public. En vain me mis-je en quête du temple ou par exemple d'une mairie. Je ne vis ni temple ni mairie. Le peuple talpa semblait n'avoir ni dieu ni mère. Cependant, damoiselle de Coucy disait toujours « Ah, Sainte Marie !» Mais je vis bien que cette exclamation n'avait pas plus d'importance dans son charmant petit énorme groin rose que chez nous, nom d'un petit bonhomme. Le seul monument, vraiment monument public, que j'eus à admirer était justement la bâtisse des concerts classiques. Elle était certainement plus admirable que tout le reste encore. Je n'y puis comparer, pour en donner une idée, que ce que nous pouvons voir encore du temple de Chilambaro, en y ajoutant les 100 temples de Shiva à Bhuvanamelala et les 96 colonnes de Madapam de Koljivesam et les 7 pagodes monolithes d'Anglesil. Je ne les ai pas encore vus, mais je me suis promis de ne point mourir sans les avoir vus. En dehors de ce monument, toutes ces merveilles architecturales, donc, s'appliquaient aux bâtisses privées. La plus mesquine ouverture, la plus humble porte, la fenêtre de la cuisine, que vous dirais-je, étaient de véritables petits bijoux, comme on dit. Et d'après ce que je vous ai narré plus haut de cette architecture, vous voyez qu'il ne faut évoquer en aucune façon ni l'art léger, mais nu des Hellènes, ni l'art épais de l'Égypte, de l'antique Égypte, ni le composite, trop peu composite encore, romain. Et les fenêtres et portes ne rappelaient en rien le cintre lourd du roman ou l'ogive du gothique, qui ont que n'eût assez rayonné du flamboyé, mais plutôt le fer à cheval, de Cordoue, toujours à l'art arabe, oh, ces arabes. Oui, le fer à cheval avec ses mille incrustations et ses 100 000 cornements, chef-d'œuvre de la pierre fouillée et trifouillée. Oui, maintenant j'y suis. Il se peut que les Arabes et aussi les Mongols, avec leurs 10 doigts de main chacun, aient fouillé la pierre. Mais le peuple de Talpa, avec ses 20 doigts de main chacun, l'a trifouillée. C'est admirable. Et la trifouille sans cesse pour en jouir, ce qui rend l'œuvre plus admirable encore, sans qu'elle soit jamais terminée. Et sur les places publiques, je ne vis point de statue. Le sculpteur le regretta. Le philosophe dit « Ah, voici un peuple qui n'a ni dieu, ni mère, ni grands hommes. C'est un pauvre peuple, il n'ira pas loin. » Ainsi, le front lourd, je supportais mes pensées quand je rencontrais une troupe de jeunes gens talpards mais d'arbalètes. Je me dis « Ah, voici enfin les archers du guet !» Mais je fus vite détrompé, car comme ils m'avaient senti à l'odeur de ma lumière, ils vinrent à moi, me firent 100 compliments sur ma bonne mine et me confièrent qu'ils partaient pour la chasse. Mon Dieu, oui, c'était la saison des chasses. Cette saison coïncidait tous les ans avec une forte crue de leur lac intérieur, et certaines régions du pays Talpa se trouvaient envahies par des passages de rats. Ils en tuaient des quantités innombrables qu'ils accommodaient en mille sortes de nourritures, pâtés et conserves. Enfin, ils usaient de la fourrure fort artificieusement pour l'habillement des personnes et la tapisserie des maisons. Je leur souhaitais bonne chasse et ces jeunes gens partirent pleins de gaieté, c'est-à-dire moult réjouis. Ils se contaient leurs exploits passés. Il y en avait grand multitude et grand foison. Grâce à quelques indications qu'ils me voulurent bien donner, je retrouvai la demeure de Dame de Montfort, qui m'attendait à la fenêtre, et du plus loin qu'elle me vit, agita son mouchoir de peau de rat. Je la rejoignis et nous commençâmes à parler moult sagement. Je lui demandai si elle était mariée. Elle se mit à rire et je vis que je n'avais rien à craindre du mari. Elle me demanda ce que je faisais sur le dessus de la terre de mes 20 doigts. De mes 10 doigts, répliquai-je. Ce que je fais de mes 10 doigts. Ben, je suis commissaire de police. Elle ouvrit à ces mots de grandes oreilles et me demanda ce que faisait mon ami. Mais lui répondit que sur le dessus de la terre, c'était un voleur. Elle ne savait ce que c'était qu'un commissaire de police ni qu'un voleur. Le bruit bientôt se répandit par la ville que nous avions des métiers inconnus, et une grande foule survint qui nous suppliait de leur montrer comment nous faisions sur le dessus de la terre. J'envoyai quérir Théophraste.